Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josephine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gateka Kawe. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Le monde entier célèbre ce 16 juin la journée mondiale de l'enfant africain. La journée arrive dans un contexte où l'enfant burundais ne bénéficie pas encore d'une éducation de qualité, nous dira dans ce journal un spécialiste de l'éducation. Et puis les activités commerciales sont paralysées ici et là depuis l'annonce du retrait des anciens billets de 5 à 10 000 francs burundais. Dans ce journal, nous irons dans les provinces de Lumonge et de Makamba. Enfin, Evariste Ndayishimiye fait 3 ans à la tête du Burundi dans 2 jours. L'ONG locale Parsem dresse un bilan mitigé de ses 3 années au pouvoir. Voilà pour le sommaire.
Inzamba.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Le monde entier célèbre ce 16 juin la journée mondiale de l'enfant africain. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Les droits de l'enfant dans un environnement numérique ». À cette occasion, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi recommande au gouvernement de fournir l'accès à l'Internet pour que les enfants puissent jouir équitablement du développement numérique dans tout le pays. Toutefois, Ferdinand Simbaruhije, chargé de la communication à la FENADEB, demande aux parents de suivre de près leurs enfants pour que ces outils soient utilisés à des fins d'apprentissage. Suivez.
Par environnement numérique, il faut comprendre les réseaux sociaux, l'Internet, les jeux mobiles, etc. Et tout en connaissant l'importance de ces outils de communication dans l'éducation des enfants, dans la formation, dans l'encadrement et même au niveau du renforcement de l'amitié entre les enfants, FENADEB estime néanmoins que l'utilisation de l'environnement numérique expose les enfants à des contenus et des situations inappropriées, pouvant les amener et parfois à exposer leur vie et celle de leurs amis ou de leur famille au harcèlement et à la traite. Ainsi, la FENADEB recommande ce qui suit. Aux parents, d'abord, de suivre de près les enfants pour que ces outils de communication soient utilisés uniquement à des fins d'apprentissage et au vénement d'obtenir équitablement l'accès à l'Internet et dans la mesure où, dans certains endroits, on constate qu'il est absent carrément de ces outils, pendant que dans les villes, on se raconte qu'on observe une multiplication de ces outils de communication.
Cette journée dédiée à l'enfant africain arrive dans un contexte où le droit d'accès à une éducation de qualité pour les enfants burundais n'est pas garanti selon le constat amer de la ligne Nibidzi qui suit de près les questions d'éducation en Burundi. Elle trouve que l'éducation de l'enfant est biaisée partout, à commencer par sa propre famille qui vit dans la misère et des parents qui vivent dans une peur permanente. Eulalie Nibidzi.
L'enfant burundais ne parvient pas à bénéficier d'une éducation de qualité. Pour avoir une bonne éducation, il faut que l'enfant d'abord puisse avoir la sécurité. La sécurité au niveau de la famille, au niveau physique, mais aussi la sécurité au niveau de l'environnement des apprentissages scolaires. Au niveau de la famille, l'enfant burundais évolue dans une famille très pauvre. Même les familles des personnes qui ont des emplois manquent de sécurité alimentaire. Vous voyez l'insécurité économique dans laquelle le Burundi plonge. Quand l'enfant va à l'école sans avoir mangé, comprenez bien qu'il ne peut rien assimiler, que sa santé est mise en danger. Quand la famille manque de sécurité physique suite aux différentes violations que nous rencontrons au Burundi, l'enfant est perturbé et l'enfant ne peut pas étudier quand les parents ne sont pas en sécurité. Et l'autre problème, il y a insécurité au niveau de l'éducation morale. Actuellement, il y a l'apologie du mensonge. Normalement, pour éduquer l'enfant, il faut l'entraîner à dire la vérité. Mais actuellement, à partir des hautes autorités, c'est le mensonge qui prévaut. Un mensonge sur la sécurité, la paix règne quand il n'y a pas de paix en famille, quand il n'y a pas de paix dans les alentours. Le mensonge sur la situation économique réelle. Quant à ce qui concerne l'environnement des apprentissages, l'enfant burundais ne reçoit pas une éducation de qualité qui lui permet de penser, mais aussi de prévoir son avenir. Vous avez la pauvreté qui règne dans le pays, ou tout simplement la crise financière, la crise économique qui prévaut, a aussi contaminé l'école. La majorité des enfants burundais n'étudient pas dans des classes qui respectent les normes. Beaucoup d'enfants étudient dans des salles de classe sans bancs pupitres, sans murs, des abris de fortune. ils étudient dans des classes sans manuel scolaire et autres matériels didactiques. La plupart n'ont pas d'enseignants qualifiés et la plupart n'ont même pas d'enseignants.
Pour la Lénivisie, la qualité de l'éducation s'empire parce que même les enseignants travaillent dans des conditions pour le moins déplorables. En plus de ça, beaucoup d'entre eux ne disposent pas de connaissances dignes de ce nom. Encore une fois, la Lénivisie.
Même les enseignants qui sont qualifiés à la formation ne reçoivent pas suffisamment de recyclage pour mettre à jour leurs apprentissages afin de donner une éducation de qualité. Mais aussi la qualité de l'éducation dépend aussi de la qualité de l'enseignant. Les enseignants dans leur environnement n'ont pas le droit de participer aux activités des programmes, de faire des critiques et de s'exprimer librement sur la qualité des enseignements. Mais aussi les enseignants burundais vivent dans la frustration, même quand ils ont des revendications. Quand le gouvernement viole les accords qui sont signés entre les syndicats des enseignants et le gouvernement, les enseignants n'ont pas le droit de protester parce qu'ils n'ont pas d'espace de protestation. Et en plus de ça, parallèlement à cette éducation de la famille et à l'éducation de l'école, l'enfant burundais bénéficie d'une éducation parallèle. Pendant les heures de cours, certains après-midi et même après les cours, les enfants bénéficient des séances de politisation, des séances d'endoctrinement par le parti au pouvoir. Ils reçoivent une éducation au sein du parti au pouvoir qui leur dit « soyez désobéissants, là, attaquez l'ennemi, attaquez l'autre qui n'est pas de ton parti ». Pratiquement une éducation à la violence au sein du mouvement de jeunesse du parti au pouvoir. Ainsi, à cette occasion, j'interpelle le gouvernement du Burundi pour qu'il puisse donner une éducation de qualité à l'enfant burundais, garantir la sécurité au niveau familial, au niveau sanitaire et au niveau de la qualité des apprentissages.
Dans l'actualité de ce vendredi également, le président Evariste Ndayishimiye totalisera dans 2 jours, 3 ans, la direction du Burundi. Le directeur national de l'ONG Parsem, Hossein Ndikumana, montre que beaucoup de projets n'ont pas été réalisés parce que les nominations en poste technique ont été faites sur base d'appartenance politique. Il a dit ce lundi dans une conférence de presse animée à Bujumbura sur les réalisations d'Evariste Ndayishimiye durant ses 3 années au pouvoir. Écoutez-le.
Une évaluation à la loupe. Maintenant, on s'est donné l'objectif de faire une évaluation régulière, annuelle à partir de cette évaluation de l'État. 1. Je parle de la situation actuelle. La situation actuelle, bon, les ministères des éducateurs économiques, bon, au niveau des comptes de l'ombre, on va faire la question, par exemple, des dossiers, on n'a pas encore trouvé de solution. Il y a encore un problème. La question liée à l'approvisionnement des produits de première nécessité, le carburant, les boissons par exemple, le sucre, l'inflation des produits alimentaires, maintenant ça repart après, j'ai encore une fois. Donc le taux d'inflation qui a pour les 30, n'est-ce pas? Donc la situation actuelle n'est pas de nature à permettre une relance économique effective. L'accès du Burundi au marché financier n'est pas encore une réalité. Les investissements directs étrangers, occasionnels du public privé, sont encore faibles. Le tourisme n'a pas encore boosté l'économie burundaise. Les exportations, le café, le coton, le thé, c'est encore minime. C'est le minier. Et maintenant, on ne contribue pas de façon significative pour la production intérieure. Oui. Nous avons un taux de couverture des importations par les exportations très faible. Alors, plus de 80% de nos villes, où allons-nous les trouver? 3, c'est la gestion des ressources humaines. On voit qu'il y a encore un problème. Le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut n'est pas encore. Les nominations sont encore utilisées, ce qui a fait la capacité institutionnelle. Maintenant, vous voyez l'exemple de ces projets-là, qui ont arrivé en retard énorme, qui ont causé un tort, préjudice, au niveau de la performance de la gestion de la chose publique. Aussi, cette volonté du président de voir tout faire. Quand il dit, je vais aller à la base, mais organiser les procès à la base, dans les tribunaux de résidence ou ailleurs, on voit qu'il y a une confiance du président qui s'effrite avec ses cadres de l'administration.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Nouvelle des provinces à présent, beaucoup de commerçants grossistes de la province de Lomongue ont arrêté leur travail depuis 4 jours. Ils disent qu'ils sont en train de travailler à perte parce que la circulation des nouveaux billets de 5 à 10 000 francs burundais est encore faible dans la population. Et les conséquences sont énormes pour le consommateur. Les détails avec mon fils Niyongere.
Dans 10 jours de retrait de la circulation des anciennes copies de 10 000 francs et de 5 000 francs burundais, les individus ont droit à un dépôt ne dépasse 10 millions. Les grossistes de Lomongue parlent d'une somme dérisoire qu'ils collectent dans quelques heures par jour. Ces grossistes ont opté pour arrêter des activités pour protéger leurs marchandises et pour ne pas normes. Les consommateurs sont désespérés et disent ne pas savoir comment ils vont vivre si la situation ne change pas.
Nous les acheteurs, nous n'avons pas ces anciens billets. Par contre, nous pensons que nous sommes en train d'être punis parce que nous sommes des boucs émissaires. Aujourd'hui, si tu vas au marché, tu ne trouves rien à acheter parce que les commerçants ne trouvent pas où s'approvisionner. En plus, si tu te présentes avec les anciens billets, c'est un autre problème. Il y a quelque chose que les gens oublient. Si par hasard une personne tombe subitement malade, alors qu'elle n'a que sur elle les anciens billets, qu'est-ce qui peut se passer? Pour ce qui me concerne, fermer pour protéger ses marchandises n'est pas du tout une infraction. L'infraction se trouve chez celui qui a mal pensé cette mesure avant sa mise en application. Nous, nous disons ceci. À chaque fois que le gouvernement voudra prendre une décision concernant la population, qu'ils s'assoient ensemble pour échanger sur la mesure, en mettant en avant l'intérêt général au lieu de privilégier un petit groupe des gens parce que nous sommes en train de vivre cette situation. Et les victimes, c'est le petit peuple.
Il regrette que cette politique a été mal pensée à la Banque centrale d'accélérer le travail d'approvisionner les agences de banque pour que la vie reprenne le cours normal.
Merci, bon fils Niyongere de Lomongue. Rendons-nous dans la province de Makamba où les habitants sont mécontents. Ils disent que depuis que la mesure du retrait des anciens billets de 5 à 10 000 francs burundais, il y a eu manque de nouveaux billets sur le marché. Les commerçants du chef-lieu de cette province disent d'ailleurs travailler à perte à cause de ce manque de nouveaux billets. Le point avec Pierre Gahungu.
Ces habitants qui n'ont pas de compte dans les banques et microfinances saluent la mesure de retrait des billets de 5 et 10 000 francs burundais. Ils déplorent néanmoins la non-disponibilité de nouveaux billets dans les banques et microfinances.
Personne ne nous fait contester aux ordres donnés. Vous voyez que nous avons répondu massivement. Mais au-delà de ça, nous voulons que les nouveaux billets soient disponibles dans les meilleurs délais pour se procurer de quoi mettre sous la dent. Pour le moment, je peux garder cet argent pour pouvoir acheter de quoi manger ou pour faire soigner mon enfant. Mais quand je dépose mon argent à la banque et je ne reçois pas les nouveaux billets, je comprendrai ce que ça devient un problème.
Certains commerçants de la province Makamba indiquent qu'ils travaillent à perte depuis cette mesure de retrait des anciens billets de 5 et 10 000 francs. Ils disent qu'ils ne peuvent ni se procurer de nouvelles marchandises, ni vendre les produits à leur disposition.
Ici, tout le monde n'est pas à mesure de travailler suite à son problème monétaire. Notre problème est que nos clients nous amènent les anciens billets alors que nous en avons aussi les mêmes. Nous sommes dans l'incapacité de travailler. Il faut qu'ils fassent un échange pour recevoir les nouveaux billets pour que le travail avance. Nous, les vendeurs de légumes, nous faisons entrer beaucoup de taxes dans les caisses de l'État. Il faut que la BRB nous donne les urgences nouveaux billets pour que nous travaillions.
Ces commerçants expliquent que non seulement les nouveaux billets ne sont pas disponibles, mais aussi les billets qui sont restés dans les circuits bancaires sont introuvables, ce qui handicape leurs activités. Signalons que malgré la récupération de ces anciens billets, les habitants du chef-lieu de la commune Makamba déplorent qu'ils ne sont pas accueillis par les administratifs qui sont en train de les collecter, mais plutôt qu'ils sont envoyés dans les banques et microfinances, alors que ces dernières n'en disposent pas.
Ngozi, c'est plutôt les commerçants qui vendent le haricot dans le marché central d'Ngozi qui ont fermé leur stand. Ils disent qu'ils n'ont plus de marché à l'extérieur de la province à cause de l'ordonnance du ministère de l'Intérieur interdisant la circulation des marchandises d'une province à une autre. Ils demandent que cette mesure soit levée pour qu'ils puissent reprendre cette activité commerciale. Ils disent qu'ils ne vivaient que de ça. Le point avec Eddie Claude et Nina Hadzou.
Tous les stands dans lesquels travaillaient les commerçants des haricots au marché central d'Ngozi sont fermés il y a une semaine.
Ces commerçants disent qu'il leur manque de produits à vendre, alors qu'ils s'approvisionnaient normalement dans différentes communes et provinces. Une mesure du ministre et à l'intérieur dans ses attributions a interdit le mouvement des vivres, notamment les céréales, d'une commune ou d'une province à l'autre. Pour ces commerçants, les conséquences sont inévitables. L'activité qu'ils menaient faisait vivre leur famille. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. La situation n'est pas aussi simple pour les consommateurs. Le haricot est devenu une denrée rare dans cette province. Ils demandent au gouvernement de revoir la mesure.
C'est une mesure qui frappe nous qui comptons s'approvisionner au marché pour vivre. C'est traumatisant quand tu trouves là où tu avais l'habitude de s'approvisionner, n'ouvre plus ses portes. Nous demandons que ces mesures qui ont été prises, arguant qu'elles visent à protéger les récoltes, soient annulées. Il faut qu'il y ait des analyses objectives avant la mise en application de son genre de mesures.
Comme conséquence de cette pénurie, dans deux petites boutiques de quartier, le prix du haricot par kilo a connu une flambée, montant de 1000 à 1500 francs burundais. Des commerçants et consommateurs demandent l'annulation de la mesure interdisant le mouvement de marchandises et de favoriser la libre circulation de ces produits alimentaires pour l'intérêt de tous.
Et pour clore ce journal, Ichi au secours et implore la bonne volonté du gouverneur de la province Muyinga pour qu'il leur vienne en aide afin qu'ils puissent regagner le bercail. Ils, ce sont 14 hommes originaires de la commune Giterani qui disent vivre dans les brousses de Dodoma en Tanzanie. Ils étaient partis pour l'exploitation des minerais et aujourd'hui laissés à eux-mêmes. Ils disent que leur employeur les a lâchés sans leur donner le salaire convenu. Ils craignent de mourir de faim. La précision avec Olivia Gakima.
Ces 14 hommes isolés dans les brousses de Dodoma en Tanzanie, où ils étaient partis exploiter des minerais, disent qu'ils sont terrassés par la faim et la soif. Tous sont originaires des collines de Gakoni, Mihiko, Wurangara et Visiga de la zone Tura en commune Giterani de la province Muyinga. Ces derniers disent que la source de leur malheur reste Lazare Sinzumonsi, lui aussi natif de Toura, qui les avait embarqués en Tanzanie pour leur donner du travail.
Nous avons été amenés ici en provenance de Burundi par des employeurs burundais. Le premier jour, ils sont allés à Kobero pour nous trouver des documents et nous ont acheminés à Kavanga où nous avons séjourné. Puis, ils nous ont conduits à Dodoma. Le premier jour, on a tous passé la première nuit dans un véhicule. On était à 14, tous originaires de la zone Toura. On avait été recrutés pour travailler dans l'exploitation des minerais. On a travaillé comme convenu et quand on a demandé notre état, on n'a pas eu de réponse. Si rien n'est fait, nous allons mourir de faim. À cette époque, là où nous sommes installés, on avait tout. La nourriture, l'eau. Mais aujourd'hui, on ne reçoit ni la nourriture, ni notre salaire. Nous implorons votre bonne volonté en tant que représentants du gouvernement. Aidez-nous à regagner le Belka, sinon nous allons mourir de faim ici.
Tous plaident pour le retour au Berkaï d'abord, puis faire le suivi de leur dû étant chez eux. Les autorités administratives à Muyinga promettent de suivre de près cette affaire.
Merci Olivier Gakima pour toutes ces précisions et c'est par là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.